franceinter.fr.
Notre capacité à nommer les couleurs, une question de langage mais aussi d'usage. Voyage coloré aujourd'hui dans le cerveau à la une de la science.
Lorsque je lève les yeux, je rencontre le ciel. Et je me dis, mon Dieu, mais c'est sensationnel, tant de bleu. Lorsque je lève les yeux, je rencontre tes yeux. Et je me dis, mon Dieu, c'est vraiment merveilleux, tant de bleu.
Et la voix d'Édith Piaf demandait à peu près à n'importe quel enfant de plus de 5 ans de nommer justement la couleur du ciel et dans sa langue, il vous répondra le bleu, sauf les chasseurs-cueilleurs Chimani de Bolivie qui n'ont pas vraiment de mots pour cela. Une découverte faite par des chercheurs du MIT qui nous en apprend beaucoup plus sur notre cerveau. Axel, on reçoit aujourd'hui pour en discuter Pierre Lemarquis.
Bonjour Pierre Lemarquis.
Bonjour, bonjour Axel, bonjour Mathieu.
Bonjour, vous êtes neurophysiologiste, professeur associé à l'Université de Toulon et vous êtes en direct avec nous depuis le Japon, d'où le petit décalage. Alors comment expliquer que ces peuples Chimani aient du mal à décrire la couleur bleue ?
Alors déjà peut-être l'étude, donc ils ont du mal peut-être à décrire le bleu parce qu'ils l'utilisent pas souvent. Donc c'est une équipe donc du MIT qui est partie en Amazonie interroger ces chasseurs et ils se sont aperçus finalement qu'ils connaissaient bien trois couleurs. Ce qu'on retrouve dans d'autres endroits comme en Afrique, il y a toujours le blanc, le noir et le rouge. Donc le blanc pour la lumière, le noir pour la nuit, le rouge pour le sang. Après, quand on interroge ces Indiens d'Amazonie sur d'autres couleurs, les couleurs chaudes viennent un petit peu en retard avec un petit décalage, et les couleurs froides, comme le bleu, arrivent un peu plus tard encore. Donc ils ont essayé de trouver, ils se sont demandé si ces Indiens avaient peut-être un problème de, comme le daltonisme ou d'autres anomalies, ou si c'était physiologique, si c'était une sélection naturelle, et puis finalement, ils se sont aperçus que c'était purement culturel. C'est-à-dire ils vont exprimer, ils vont utiliser dans leur langage les couleurs dont ils ont besoin, tout simplement, dans leur vie courante. Hein. Ils ont besoin, donc, bien sûr, du noir, du blanc, du rouge, mais aussi des couleurs chaudes, ce sont des chasseurs-cueilleurs, donc ils ont besoin de reconnaître les fruits dont ils vont se nourrir, habituellement, plutôt des couleurs chaudes.
Mais comment...
Donc la déduction des scientifiques... Pardon.
Non, allez-y, la déduction des scientifiques.
C'est que on va utiliser dans notre langage les mots, donc les couleurs dont on a besoin, qui vont nous servir dans notre existence, quoi.
Mais est-ce qu'au niveau sensoriel, la difficulté à nommer une couleur traduit une difficulté à différencier ses nuances ou à la voir tout simplement ?
Alors, leur conclusion, c'est qu'ils voient évidemment les couleurs comme nous. Il n'y a pas eu de sélection naturelle, ils ne sont pas atteints de maladies. Mais simplement, les couleurs qui ne leur servent à rien dans leur existence, ils les nomment pas, ils les utilisent moins. Par exemple, si nous, on va se comparer à un peintre, il va vous décrire des variétés de bleus très nombreuses qui, pour nous, seront inutiles, donc on ne va pas s'en servir.
Jean-Philippe Usan, avoir des difficultés à nommer des couleurs en fonction de sa culture, ça ne vous surprend pas, j'imagine ?
Non, pas du tout, parce que déjà en termes de couleurs, pour un physicien, la couleur n'existe pas. On va avoir de la lumière de différentes longueurs d'onde. Ce que nous appelons couleur, c'est ce que cette longueur d'onde va faire sur notre œil et ce qui va se passer entre l'œil et le cerveau. Donc quelque part, c'est ça qui nous donne la perception, la longueur d'onde est ce qu'elle est. Et donc là, on voit que ce qu'on est en train de nous décrire, c'est quelque chose de fondamental en science. C'est la relation entre le monde extérieur, les mots qu'on va utiliser pour décrire ce monde et les théories de la nature que l'on va utiliser. Et en fait, quelle image est-ce que les théories de la nature nous donnent du monde extérieur ? Ça dépend de nos sens, mais ça dépend aussi de ce que la science est capable de faire pour étendre nos sens, d'inventer des microscopes, des télescopes, voir des couleurs qui ne sont pas accessibles à nos yeux, comme les ultraviolets, les infrarouges. Et souvent, on va commencer à parler de mondes pour lesquels nous n'avons pas de mots, puisqu'ils ne sont pas accessibles à nos sens. Si je parle du monde quantique ou du cosmos, nous n'avons pas eu besoin d'en parler avant. Il faut inventer des néologismes. Voilà, donc c'est un peu tout à fait en connexion avec cette découverte.
Et Pierre Lemarquis, est-ce que cette découverte est valable pour d'autres sens que la vision ? Est-ce qu'on peut imaginer le son, par exemple ?
Bien sûr. On sait, par exemple, que si on écoute du Jean-Sébastien Bach, ça a été montré à Dijon, si on ne connaît rien à la musique, au bout d'un moment, notre cerveau va se façonner, va se sculpter, on va être capable de reconnaître les thèmes, de les différencier. Donc il y a un côté culturel qui va permettre d'interpréter ce que les sens nous apportent.
Et pour en revenir au bleu, est-ce que si, par exemple, je grandis toute mon enfance sans aucun contact avec la couleur bleue, je serai incapable de la voir quand je serai adulte ?
Là, il faudra tout un apprentissage. C'est la question, vous savez, de Molineux. Et est-ce qu'un aveugle de naissance, si on lui rend la vue, sera capable de reconnaître un cube, un parallélépipède, une boule ou un triangle, vous voyez? Il faut un apprentissage. Ce sera pas inné. Il y a un côté culturel par derrière.
L'astronome aveugle, Jean-Philippe Puzan, on va en parler avec vous. C'est vraiment le sujet. C'est le hasard des rencontres, mais c'est exactement de ça dont vous parlez.
Oui, c'est merveilleux parce que c'est vraiment une question importante et qui, à mon avis, est très importante pour tous les gens qui commencent à faire des études en sciences, parce qu'en général, on pense que la science, c'est juste faire des calculs. Mais à la fin, ces calculs et ces théories, elles doivent nous dire quelque chose sur le monde extérieur et dont on doit en parler et on doit en communiquer avec des gens qui ne sont pas des techniciens. Et c'est là où la vulgarisation, l'enseignement et puis aussi peut-être d'autres voies comme l'art permettre de diffuser ça à tous.
On va faire connaissance avec vous dans un instant avec une astronome aveugle du Cap en Afrique du Sud.
Oui, moi j'ai une question pour Jean-Philippe Puzan. Quand vous choisissez devant des photos d'une comète ou d'un astre des fausses couleurs pour le colorer, ça veut dire que vous adressez à une partie de la population qui voit ces couleurs avec une certaine émotion en fait?
Alors je ne sais pas si là on peut parler d'émotion, mais c'est vrai qu'à un moment il faut représenter, donc on va transformer certaines longueurs d'onde en longueurs d'onde qui vont correspondre à des couleurs accessibles à l'œil, et là il n'y a pas de règle, c'est-à-dire qu'on a un choix, et c'est vrai que dans les équipes, quand ils vont publier des résultats, il y a toujours une discussion sur quel type de couleur utiliser. Alors un exemple, le fond diffus cosmologique, les Américains avec le satellite WMAP avaient choisi du rouge et du bleu pour le chaud-froid, alors que les Français ont plutôt utilisé un bleu plus clair et du jaune. Donc là peut-être que ça dépend aussi de l'acuité visuelle, du daltonisme ou non daltonisme des équipes, je ne sais pas. Mais il y a un choix esthétique et à la fin, il n'y a pas de règle absolue là-dedans. Donc on a une liberté.
Pierre Lemarquis, peut-être une dernière question d'un point de vue du cerveau. Qu'est-ce que ça traduit de son fonctionnement, cette découverte?
Au revoir. Tout simplement que notre cerveau est un organe qui nous permet de rester en vie, de nous adapter au monde. C'est ça. Première fonction, la deuxième c'est de prendre plaisir à vivre, mais pour s'adapter au monde, on est obligé d'intégrer des données et de les adapter au monde qui nous entoure. Donc les couleurs qui nous servent pas dans notre vie courante, on va les négliger, on saura moins les nommer que celles qui sont fondamentales comme le rouge par exemple.
Ou à l'inverse de celles qui servent beaucoup dans certaines cultures.
Voilà, c'est ça. Et par exemple, c'est vrai que quand j'étais jeune, j'étais passionné du Grand Nord, donc j'avais appris la langue des Inuits, l'Inuktitut, et pour le blanc, il y a énormément de mots pour décrire toutes les nuances de blanc en fonction de l'heure de la journée.
Il y en a plus de 50, je
crois. Oui, quelque chose comme ça. Ça va, pareil pour la neige, suivant l'état de fonte et Et je pense qu'on a besoin, ils ont besoin de ce détail.
Merci beaucoup. Merci Pierre Lemarquis. Quelle est la couleur du ciel au Japon où vous êtes en ce moment?
Ah, je suis à côté d'Hiroshima, matin il fait nuit.
Bon. Ah oui, c'est vrai qu'il y a décalage, effectivement. Profitez bien des étoiles japonaises. Merci Pierre Lemarquis, et puis Axel, on se retrouve demain.
À demain.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité des sciences, la population de putois d'Europe qui est en forte chute sur notre territoire, selon la Société française pour l'étude et la protection des mammifères, qui vient de publier cette enquête. Le constat est alarmant et les menaces qui pèsent sur le petit carnivore sont de plus en plus nombreuses. Chasse, pollution, fractionnement du territoire, collisions routières sont les causes principales de ce déclin. Nombre de nos voisins, comme la Suisse, l'Espagne ou même l'Italie, ont déjà réagi et classé le putois comme espèce protégée. Pour le naturaliste Pierre Rigaud, président de l'association, il serait temps que la France le fasse aussi. Des neurones pour la soif, des chercheurs américains viennent d'identifier dans notre cerveau une région particulière et surtout une population de neurones exclusivement dédiés au contrôle de la soif. Actifs lorsque notre corps manque d'eau, ils déclenchent une cascade de signaux qui nous motive à chercher de l'eau. À l'inverse, quand nous buvons, et en fonction de la quantité bu, ils se désactivent un par un jusqu'à ce que la sensation de soif disparaisse. Boire jusqu'à plus soif revient donc à boire jusqu'à éteindre tous les neurones associés à la soif ou alors jusqu'au coma éthylique, mais là c'est une autre histoire. Et puis l'amour des vacances à la mer serait-il suffisant pour stopper la pollution plastique et sauver les écosystèmes marins? C'est ce que pensent en tous les cas des chercheurs de l'université de Plymouth qui suggèrent de taper là où ça fait mal à la manière des images sur les paquets de cigarettes. Ils suggèrent de sensibiliser les consommateurs à diminuer leur usage des emballages plastiques avec des images de côtes dévastées, de paysages paradisiaques ravagés et de poissons des îles morts. Au grand mot, les grands remèdes, admettent les chercheurs résignés qui ne savent plus comment faire comprendre que les changements doivent avoir lieu maintenant.